بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفعان الإسلام نو غميسيون الله رب العزة كي داسا كليمانس nous accepte ce soir pour nous réunir un instant pour étudier quelques hadiths de Riyad al-Salihin de cette compilation de hadiths Jardin des Vertueux. Ikhwani fillah, nous avons accompli la salah ma'al jama'a en congrégation et nous sommes là assis à écouter la parole d'Allah, la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ça, ce sont des bonnes actions qui sont en ce moment greffé, inscrit sur notre livret de bonnes actions. Et ce livret de bonnes actions se ferme à partir du moment où l'être humain quitte ce dunya. Et nous avons prié la salat janaza sur ce frère donc qui nous a quitté aujourd'hui. Et cette personne qui nous a quitté pour retourner vers Allah, Azza wa Jal, son livret de compte est à cet instant précis fermé. Et il emporte avec lui uniquement sa foi, ses bonnes actions, mais également les mauvaises actions. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que lorsqu'une personne meurt et qu'on l'enterre, depuis l'endroit où on a prié sur lui jusqu'à ce qu'on l'enterre, yatba'uhu, il y a des choses qui le suivent. Il y a sa famille qui le suit, il y a ses biens qui le suivent, il y a ses actions qui le suivent. Mais lorsqu'on enterre cette personne, la famille retourne là de là où elle venait, les biens retournent également là d'où ils venaient et ils vont dans les mains des personnes qui ont droit, c'est-à-dire le miraf, l'héritage. Et la seule chose qui reste avec le mayyit, avec le défunt, c'est sa foi et ses a'mal, ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Donc à chaque fois qu'il y a une salat, sal janaza, une prière sur un défunt, ça doit être pour nous un rappel que la personne sur qui nous venons de prier, cette personne-là est en train de connaître ses réalités et instant après instant, minute après minute, cette personne va découvrir les différentes étapes de l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, fait descendre sa rahma sur la tombe de ce frère et que son qabr, sa tombe, soit rawda min riyad al-jannah, un jardin parmi les jardins du paradis, et que Allah Azza wa Jal lui donne يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Qu'Allah lui donne thabat, lui donne la fermeté dans la réponse aux malaïkas, aux anges qui vont lui poser les trois questions qu'on pose aux défunts. Dans un hadith, il est stipulé que le prophète alayhi salatu wassalam avait enterré un sahaba et alors que les gens étaient déjà retournés chez eux, le prophète alayhi salatu wassalam était resté plus longtemps sur la tombe de ce sahaba. Pourtant, on parle de sahaba, radiyallahu anhum wa radu an, les meilleurs des hommes sur cette terre après l'anbiya alayhi salatu wa salam. Et le prophète salam dit avec les autres sahaba qui étaient restés l'attendre, ud'u li akhikum bithabat fa innahu al-ana yus'al, fa innahu al-ana yus'al. Invoquez Allah, demandez à Allah azza wa jal de lui accorder la fermeté, la force, parce que à cet instant on est en train de lui poser des questions. Yus'al, c'est bil majhoul. C'est on lui pose des questions. Et qui c'est qui lui pose des questions? Ce sont les anges dans la tombe. Allah Rabbul Izzah lui donne la possibilité, à cet instant précis, de savoir que là, en ce moment, les anges viennent d'arriver. Et les anges commencent à le questionner. Et il a fait doua pour son frère, pour son sahaba. Il a demandé au sahaba également de faire doua pour leur frère, qu'il puisse répondre aux questions des anges avec facilité dans la tombe. Parce que ces questions-là, ce ne sont pas des questions qu'on prépare comme un examen. Ce ne sont pas des questions qu'on peut mémoriser les réponses. Ces questions-là, ça touche directement ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. C'est ta foi qui est interrogée et pas ta langue. Et ce qu'il y a vraiment dans le fond du cœur, c'est ce qui ressort, c'est ce qui permettra aux croyants mu'mines de répondre aux questions des anges dans la tombe. C'est le doua que nous faisons pour ce frère et li jami'i amwat al-muslimin, pour tous les défunts. Nous demandons à Allah Rabbul Izza également qu'une fenêtre du Jannah soit ouverte pour ce frère et qu'il puisse voir la demeure qui sera la sienne, inshallah, dans le Jannah. Et qu'Allah Azza wa Jal accorde sabrun jamil, la belle patience à ses proches, à sa famille. Et qu'Allah donne la guider. Je ne sais pas si ce frère avait des enfants. Je ne sais pas quel âge il avait. Hein? Il n'avait pas d'enfants, non. Khair, inshallah. Mais que ses proches continuent à faire doua, à continuer à faire des invocations pour lui, et que les récompenses de ces invocations, inshallah, lui parviennent. Et que le jour de Qiyama, ce jeune frère, donc c'est un jeune, je ne savais pas, ce jeune soit réuni avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec sa famille, parce que dans le Coran, il est stipulé Jannat wa adni yadkhulunaha, le paradis dans lequel ils vont entrer, wa man salaha, ainsi que ceux qui ont les qualités, min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, parmi les ascendants, les épouses et les descendants, c'est la traduction bilma'na, approximative. Et les ascendants, les épouses et les descendants. Man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Il n'y a pas plus grand bonheur que d'être dans le Jannah avec toute sa famille. Ce qui prouve que le travail, la responsabilité, ce n'est pas un travail, la responsabilité du tarbiyah, de l'éducation, aura été assurée par le papa qui aura su donner la tarbiyah islamiyah à ses enfants. La consécration du bonheur du Jannah, c'est de s'y retrouver avec ascendants et descendants, avec les parents, les grands-parents, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, et wazwajib, avec l'époux ou l'épouse. Que toute la famille soit réunie au Jannah, c'est le plus grand bonheur. Qu'Allah accorde cela à ce frère qui nous a quittés, et qu'Allah nous l'accorde à nous, inshallah. Parce que, comme aujourd'hui nous avons prié sur lui, un jour, des gens prieront sur nous. Et qu'Allah nous accorde la meilleure des délivrances et des destinées. Allahumma amin. Nous commençons ce soir un nouveau chapitre. Enfin, ce n'est pas un nouveau chapitre, c'est de la continuité de Bab al-Istiqam. C'est de la continuité du chapitre sur la fermeté et la constance de le din. Et le titre est très précis. Bab al-Tafkiru fi azimi makhlouqatillahi ta'ala wa fana'i dunya wa ahwali al-akhirati wa sa'iri umuriha wa taqsiri nafs wa tahdhibiha wa hamluha ala al-istiqama. Alors le titre est très long, c'est un des titres les plus longs parmi les chapitres de Riyad al-Salihin, et on a tenu à avoir la vraie traduction, la méditation ou la réflexion sur la grandeur de tout ce qu'Allah a créé. Ça on sait. Ainsi que sur le caractère éphémère de ce bas monde. Ça aussi on comprend. Sur les frayeurs que nous réserve la vie de l'au-delà et tout ce qui s'attache. Ça aussi on comprend. Sur la maîtrise de notre nafs, qui a été traduit par notre nature bestiale, sur son éducation, sur le fait de se contenir, et sur sa contrainte à suivre le droit chemin. Et donc ce chapitre, c'est de la continuité du istiqama, parce que l'objectif de la méditation sur la grandeur d'Allah à travers la création, l'objectif de la méditation sur le caractère éphémère de notre vie et de ce dunya, deux choses. Le caractère éphémère de notre vie et le caractère éphémère de ce dunya, ben tout ça, ça nous permet de contrôler notre nafs. Ça nous permet de nous maîtriser. Ça nous permet de ne plus sortir des limites du haram. Et tout ça, wa hamluha ala al-istiqama. Et tout ça, ça nous amène vers la fermeté et la constance. Vous voyez, en plus du terme al-istiqama, c'est voilà les moyens, les asbab, les wasila, les moyens pour développer l'istiqama. Et ça passe toujours par une réflexion. Réfléchis au musulman. Le musulman intelligent, c'est pas celui qui observe le monde passé. C'est pas celui qui observe l'évolution du monde, les jours qui s'enchaînent de façon passive. Là, avec rafla, insouciance, là, wallah. Le musulman intelligent, c'est celui qui voit avec son iman. Il voit la création d'Allah, il ne fait pas que contempler la montagne, elle est belle, le coucher du soleil est magnifique, c'est romantique. C'est peut-être romantique, c'est peut-être très beau, mais au-delà de ça, voit le signe de la grandeur d'Allah. Voit la création d'Allah, voit la beauté de sa création qui prouve sa perfection et l'unicité d'Allah à travers chacune de ses créatures. Réfléchis ensuite sur fana et dunya. Et ça, c'est, on est en plein de le mordour. Lorsqu'un proche nous quitte, réfléchis. La vie 21 ans, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La vie 21 ans, 21 ans, on a combien de projets? Il était malade? Hein? Ça va? Il n'avait pas de problème particulier? Hein? Allahu Akbar. À 21 ans, on a des projets. Des projets professionnels, certainement. Il était marié? Non plus. À 21 ans, on projette, on essaie de faire le maximum d'efforts pour avoir des diplômes, pour avoir des acquis, pour pouvoir travailler, pour avoir un emploi, pour avoir une stabilité financière, pour pouvoir enfin se marier, pour fonder une famille. Et c'est le rêve de chaque personne d'avoir une famille, d'avoir une épouse ou pour une femme avoir un mari et d'avoir des enfants et d'avoir un foyer, une maison et d'avoir donc une vie familiale. En 21 ans, on a tous ces projets. Mais l'être humain projette, l'être humain se fixe des objectifs alors qu'il ne sait pas ce qu'Allah Azza wa Jal lui a déjà prédestiné. Et donc, at-tafakkur, le fait de réfléchir sur le départ d'un jeune, parce que là on parle d'un jeune 21 ans, le fait de réfléchir sur le départ d'un jeune, ça doit nous mener également vers l'istiqama. Tout comme le fait d'admirer la beauté de la création d'Allah, ça doit nous faire prendre conscience de la grandeur de Azamatillah, de la puissance de la grandeur d'Allah. Et donc tu réalises que tu te dois de te mettre à genoux devant lui. Le front doit être sur le sol quand tu t'adresses à lui. Observer la grandeur d'Allah à travers sa création doit renforcer notre iman en Allah et renforcer notre sentiment d'être son esclave et son serviteur. Le fait de réfléchir sur le caractère éphémère de ce dunya, cela aussi nous mène vers le istiqama. Lorsqu'on voit un jeune ou un ami qui nous quitte, on réalise que ça aurait pu être moi. Il a mon âge, ainsi de suite. On réalise que nous aussi, un jour, on doit partir. Et du coup, la personne, théoriquement, le croyant, celui qui est intelligent. Et on va voir dans un instant les versets qui prouvent que ça, c'est pour Ulul Albab. Les personnes douées de clairvoyance. Pas d'intelligence. Il ne suffit pas d'avoir un QI 90, 99. Non. C'est les personnes qui ont eu la hidayah, la possibilité de voir avec leur cœur et non pas uniquement avec leur sens. Et également, le fait de méditer, parce que dans ce chapitre, il y a, chapitre qui est long, il y a différents versets et chaque verset nous mène vers un des points cités dans le titre. Et donc le fait de méditer également sur l'au-delà et sur les ahwal, la situation de l'au-delà, bien sûr, ça nous donne, ça nous motive pour rester sur le droit chemin. Parce que ce mu'min, ce croyant, qui s'est instruit et qui a appris qu'est-ce qui va se passer après la mort, qui sait qu'est-ce qui l'attend le jour de Qiyama, quelles sont les étapes, automatiquement la personne voudra tout de suite, immédiatement, se conformer aux ordres d'Allah et faire en sorte qu'il n'y a plus rien qui l'attire vers le haram. Donc tous ces points-là, ce sont des intermédiaires, des actions qui nous permettent, وَحَمْلُهَا عَلَى الْإِسْتِقَامَ, qui nous permettent de rester sur le droit chemin. Premier verset, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, nous rappelle, dit, قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَ قُلْ يَا مُحَمَّدْ لِلنَّاسِ جَمِيعًا. Quand Allah Rabbul Izzah dit قُلْ, c'est « Oh Muhammad, dis aux gens, لِلنَّاسِ جَمِيعًا. » Et il a dit à tous les sahabas, oui ou non? Il a propagé à tous les sahabas. Et il va le dire à tous les gens parce que les sahabas vont propager à leurs enfants et les enfants, leurs petits-enfants. Et de génération en génération jusqu'à ce que le message nous soit parvenu. Et lorsque vous écoutez, pour ceux qui entendent le hadith pour la première fois, ben on est en train de concrétiser la mission du prophète alayhi salat wa salam, qui a eu comme responsabilité de faire passer le message. Qul ya Muhammad linnas jami'a. Donc dis, voici le seul et unique conseil que je vous donne. Il y a qu'à travers ce verset, Allah Rabbul Izzah nous rappelle, nous donne le cheminement pour obtenir son agrément et pour avancer intelligemment. Mettez-vous sérieusement à l'œuvre à propos de Dieu par groupe de deux ou chacun à part et méditer ensuite. Donc, le mu'allif démarre donc ce chapitre avec ce verset. Pourquoi ? Parce que ce verset, c'est par excellence le verset qui nous interpelle sur la réaction du croyant après la bonne action. Là, c'est un petit peu technique, ça. Très souvent, nous, on schématise la bonne action par la bonne intention. Ça, c'est déjà très bien. On est conscient qu'avant d'accomplir l'action, il faut fixer le niyya. Innama al-a'malu bin-niyyat. Et Allah Azza wa Jalla n'accepte que les actions qui sont faites uniquement pour lui. Donc, nous, on a intégré le fait qu'il y ait le niyya, qu'il y a l'action, et dans l'action, que ce soit la salat, la zakat, le somme, ou ainsi de suite, il y a le kayfiyya, la façon d'accomplir l'action. Là, on a les masail fiqhiyya, si ça concerne les ibadas comme somme, zakat, ou hajj, ou salat, bien sûr. Ou alors, il y a les ahkam et tajwid, les règles de lecture, si c'est la lecture du Coran, et ainsi de suite. Et puis, quand l'action est terminée, pour nous, c'est terminé. Mais après avoir accompli n'importe quelle bonne action, il y a encore deux étapes, ikhwan fillah. Deux étapes, c'est comme si vous avez préparé l'action là, vous l'avez, mashallah, vous avez fait votre maximum, vous avez fait tout ce qui était possible pour que l'action soit présentable et acceptable par Allah. Mais l'étape qui vient juste après, c'est de dire Rabbana taqabbal minna. Innaka anta as-sami'ul 'alim. Doua de quel prophète? Ibrahim alayhi salam, après avoir construit là, reconstruit là, la Kaaba. Rabbana taqabbal minna. Même si on ne le dit pas, on n'a pas la formule, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais au moins dans le cœur, avoir amal, avoir l'espoir qu'Allah accepte l'action qu'on vient d'accomplir. Parce que accomplir l'action et puis tu traces ton chemin, tu t'en vas, ça veut dire que l'action, tu l'as fait peut-être d'une façon, c'était comme une routine, c'était comme une tradition. C'est une habitude que tu as de le faire. Qu'après la salat de fajr, le matin, tu prends ton Coran, ton mushaf, tu lis 30 minutes, et après tu fais le Coran, tu t'en vas. Yani, l'action, elle est belle, elle est bonne ce que tu as fait, mashallah, qu'Allah accepte. Mais rajoute le petit chouïa, comme on dit. Rajoute la petite touche qui va faire là, la différence. Et qui donnera vraiment l'âme à ton action. Le fait de dire que, ya Allah, j'ai accompli cette action, j'ai lu le Coran ou j'ai accompli le shuruq, j'ai fait le dhikrullah, ya Allah accepte, ya Allah accepte. Ça veut dire que là tu fais le lien entre le ibada et ton khaliq. Que tu réalises que ce n'était pas un rituel qu'Allah attendait de toi. C'est quelque chose que tu prépares et que tu présentes devant Allah et tu as espoir qu'Allah accepte. Ça c'est une étape importante. Avoir espoir qu'Allah accepte l'action. Et l'autre étape, c'est ce qui est cité dans le verset, ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. Et méditer ensuite. Alors, ça veut dire quoi ce thumma tatafakkaru? Et avant d'arriver vers le tatafakkaru, quand il est stipulé dans le verset, que je vous donne un conseil, c'est qul ya Muhammad linnas jami'a ma a'idhukum, c'est le tafsir, illa biwahidatin ay ma uqaddim lakum maw'idha illa wahida faqat idha qumtum biha adraktum al matlub wa najawtum min al marhub. Je vous donne un conseil, si vous arrivez à le mettre en application, ben vous allez atteindre l'objectif. Parce que le but, ce n'est pas de faire plein de choses. Le but, c'est d'atteindre l'objectif. Et quel est ce conseil? C'est justement l'accomplissement des bonnes actions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est « at-shahid ». Ce n'est pas tout le verset, c'est à la fin. Parce que bien sûr, « taqoumu lillahi », c'est « mukhlisina lillah » avec sincérité. On réunit toutes les conditions de la bonne action. Et quand la bonne action a été accomplie, là, l'être humain se pose la question. Mada hasala lahu min hadha al-amal min taharati al-qalbi wa zaka'i an-nafsi wa ghayri dhalik. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce que cette bonne action m'a apporté spirituellement? Qu'est-ce que j'en retire? On ne parle pas des hasanat. Parce que les hasanat, on ne saura jamais ça. C'est Allah qui donne. Qu'est-ce que cette action m'a apporté là, immédiatement, en termes de renforcement de la foi? En termes de renforcement de la foi, de rapprochement vers Allah et de la force spirituelle pour que je puisse rester éloigné du haram. Parce que chaque bonne action que tu accomplis, c'est comme si tu as une batterie. Gardez cette image, une batterie qui est à 40%. Tu accomplis une bonne action, tu arrives à 50%. Encore une bonne action, et ainsi de suite, tu augmentes. Donc théoriquement, la foi va se renforcer après l'accomplissement des bonnes actions. Et là, le Mouhaddith, il donne deux exemples. Et avant de donner les exemples, il donne le contre-exemple, ce qu'il ne faut pas être. Là, c'est un jugement un peu sévère. « La takun kalladhi yuaddi a'malahu saliha wa ka'annaha adat yaf'aluha kulla yawm. » Ne sois pas ce croyant qui prie, qui lit le Coran, qui fait le dhikrullah, comme une machine qui tourne, et c'est devenu une habitude. Je veux dire, le jugement est un peu dur, hein, mais chacun réfléchit à sa façon. Il ne faut pas que lire le Coran après la salat de Fajr, c'est une habitude, tout comme tu achètes le pain après la salat de Fajr. C'est-à-dire, si tu manques à une de tes habitudes, on est un peu perturbé. Il ne faut pas que le ibadah, ça devienne quelque chose de, comme une tradition, comme une routine que tu accomplis tous les jours. C'est à chaque fois que les bonnes œuvres sont accomplies, il y a des récompenses. Mais ce qu'on doit normalement pouvoir retirer du ibadah, ça c'est quelque chose d'énorme. Et on ne doit pas s'en priver. S'en privent ceux qui ne réfléchissent pas après l'accomplissement des bonnes actions. En profite. Ceux qui, lorsque la bonne action est terminée, ils méditent, ils réfléchissent, qu'est-ce que j'ai accompli ou qu'est-ce que j'ai appris et comment est-ce que cela va me rapprocher d'Allah? Comment est-ce que cela est en train de m'éloigner de la colère d'Allah et donc des péchés? Ça, c'est le croyant intelligent, ulul albab. Bal tufakkir madha hasala laka min hadhihi al-ibada. Mais médite, qu'est-ce que cette bonne action t'a apporté? Wa madha atharat ala qalbika wa ala istiqamatik. Et comment est-ce que cette bonne action a eu un impact sur ton cœur? Comment est-ce que cela a renforcé ta foi et cela t'a permis d'être, de faire un pas de plus dans le istiqama, dans la fermeté? Parce que l'istiqama, si on pourrait prendre comme exemple, un pas après l'autre, un pas après l'autre, mais toujours dans le sirat al-mustaqim, dans le droit chemin. Pas à droite, pas à gauche. Et c'est ce doua que nous demandons au Hedina, As-sirat al-mustaqim, rester ferme dans l'adoration d'Allah, dans les bonnes œuvres, ne pas faiblir, ne pas reculer et continuer à avancer. Et l'objectif, c'est quoi? C'est jusqu'à la mort. Hatta yati akal yaqin. Celui qui a avancé, qui restait ferme, jusqu'à ce que l'ange de la mort reprend son âme, subhanallah, celui-là, faqad aflaha wanja. Celui-là, il a eu la réussite et il a été protégé contre toute mauvaise chose, toute déviance. Allahumma ja'alna minhum. Deux exemples concrets. La salat, ça on avait un peu introduit dans Durus al-Tafsir parce que c'est un verset qui nous a beaucoup, beaucoup marqué et qui nous fait prendre conscience que même si on a 35 ans d'ancienneté de la pratique, il y a des fois on passe à côté de certaines étapes qui nous sont spirituellement très profitables. Il y a des fois on pense que nous c'est bon, tout est bon pour nous. C'est comme un contrôle technique, c'est ok. Tout est ok, il n'y a aucun problème. Là il y a akhi. Bien inconscient, celui qui pense qu'il est au top, là, pense toujours au progrès que tu peux faire. Et c'est qui nos modèles, nos exemples? Ce sont qui? Ce sont qui ces Nujum? Les Sahaba. Regarde comment eux, ils pratiquaient. Regarde eux comment ils pleuraient devant Allah la nuit de la prière de Qiyam al-Layl. Et là, tu auras une idée si vraiment tu as un top niveau ou alors tu es vraiment niveau Allah Musta'an, tu auras des pâquerettes. Mathran as-salah. Cheikh, il donne deux exemples, deux versets. Premier verset, c'est ce qu'on a lu dans la quelle rak'a? Premier ou deuxième? De la première rak'a. Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Et il donne également wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez refuge à travers la patience et la prière. Et un autre verset, wa aqimis-salah. Donc ça, on va dire dans un deuxième temps. Falnufakkir. Il dit que par rapport à ce verset qui nous donne une approche d'un des objectifs de la salah. C'est pas uniquement le rituel, c'est que tu arrives à trouver la force, tu arrives à trouver la patience, tu arrives à trouver l'aide d'Allah à travers la salah, tu arrives à trouver la confiance en Allah. Wasta'inu. Ça vous rappelle pas un verset? Yaka na'budu wa yaka nasta'inu. Wasta'inu. C'est la même racine, c'est le même verbe. Tu demandes à Allah, tu affirmes, certes, c'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous cherchons secours ou refuge. Ben justement, vas-y, tu as un problème, tu as des difficultés, tu as des épreuves, fonce vers la salah et trouve l'aide d'Allah dans la salah. trouve le réconfort spirituel, mais également psychologique dans la salah. Ce croyant qui arrive à trouver la stabilité, la tranquillité du cœur, le réconfort dans la salah, ben c'est un des objectifs majeurs de la salah qu'il a pu atteindre. Et c'était là une qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, il dit « Annahu kana idha hazabahu amrun fazi'a ila salah » Hadith rapporté par As-Suyuti et par Abu Daoud et par Imam Ahmed ibn Hanbal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affecté par quelque chose, il s'orientait vers la salah. Il trouvait refuge dans la salah. Parce que la salah, ça voudrait être le raha, la tranquillité du croyant. C'est la fraîcheur de tes, ça doit être la fraîcheur de nos yeux. Maintenant, nous devons voir, est-ce qu'on peut être fier de nos salahs ou on se rend compte qu'il nous manque vraiment une base? Akid, certainement, il nous manque quelque chose. Il nous manque cette tranquillité, cet apaisement que nous devons normalement trouver uniquement en disant Allahu Akbar. Quand tu dis Allahu Akbar, ça doit être plus profitable que de prendre des antidépresseurs ou des neuroleptiques ou n'importe quel médicament, n'importe quelle molécule qui te permet de te détendre. De nos jours, une personne a un problème, immédiatement il va prendre un Lexomil. Vous savez c'est quoi Lexomil? Faut pas prendre ça. De nos jours, les gens ils jouent avec ces médicaments. Et ça donne Alzheimer. Allah protège. Protège nos parents, protège toute personne de ce genre de maladie. Nassallahu salam wa ta'afiyah. Quelqu'un stresse, il n'arrive pas à dormir, bon, il va prendre un demi-stilnox. Vous savez, stilnox, c'est quoi? Ça saoule. C'est un shooter. Ça te fait dormir en 15 minutes, tu es KO, tu ne comprends plus rien. Après, tu te réveilles 3 heures de temps après. Il y a des gens, je connais, qui sont drogués avec ça. Ça ne s'appelle pas être drogué, mais entièrement dépendant des molécules, des médicaments. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas sakina. Il n'y a pas tienne. Chez les Indiens, ils disent ça tienne. Il n'y a pas la tranquillité. Il y a des stress. Il y a de l'angoisse. Il y a de la peur. Il y a des problèmes. La famille, le travail, l'emploi, les dettes, les impôts, les enfants qui sont partis dans tel pays. Ou alors, il faut envoyer l'argent, il est en train de faire ses études. Il y a tellement de choses que le coco, il bloque, le coco, il chauffe. Et la personne n'arrive pas à dormir. Ou la personne est stressée, elle est angoissée. Après, elle a la spasmophilie. C'est la grande maladie de notre siècle. Spasmophilie. Ah, oh, il n'a plus respiré. D'accord, il n'a plus respiré. T'as pas de l'as, t'arrives pas à évacuer le stress. Tu n'arrives pas à réguler l'oxygène avec qu'est-ce qui ressort là? Le monoxyde de carbone ou le dioxyde? Ouais, le monoxyde c'est les voitures. Nous on n'a pas de moteur. Voilà ce qui sort. On n'arrive pas à équilibrer tout ça. Yani liannaka fi qalaq, parce que tu angoisses, tu stresses et tu n'arrives pas à évacuer. Tu n'arrives pas à comprendre que tout ce qui arrive c'est bi qudratillah wa bi iradatillah wa bi qadarillah. Tout ce qui arrive c'est par l'ordre d'Allah, par la prédestinée, c'est la décision d'Allah. Et rien ne peut, aucun problème ne peut trouver de solution sans qu'on s'oriente vers Allah Azza wa Jal. Donc les personnes vont combler cela par des médicaments ou autre chose, ou va avoir un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, il y a plein de métiers qui ont été créés pour soigner les gens qui n'arrivent pas à trouver la stabilité, alors qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la solution wasta'inu. Tu prétends iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi qu'on trouve, on cherche le secours et le refuge. Ben quand tu as un souci, cherche le secours auprès d'Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Et Allah Rabbul Izza nous rappelle ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ce cœur là ne pourra jamais trouver la tranquillité. La tranquillité avec, en majuscule, the tranquillité, sans passer par le dhikrullah. C'est par le dhikr uniquement, par le dhikr qu'on trouve l'apaisement du cœur. C'est pas en possédant beaucoup de choses. C'est pas en ayant plein de choses à manger. Même si c'est pas mal aussi d'avoir plein de choses à manger. C'est pas en ayant beaucoup de voitures ou beaucoup de, bref, en étant quelqu'un de célèbre, de connu, tu mets un pied dehors, tout le monde dit, ah, un autographe. C'est pas ça. Ça n'apporte pas. Tamanina. Combien d'exemples on a déjà cité pour ça? Combien avons-nous vu d'artistes, si on peut appeler ça des artistes, ou de sportifs, riches, célèbres, la gloire, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils se shootent, ils se droguent, ils cherchent ce qu'ils n'ont pas pu avoir au sommet de leur carrière, alors que leur compte en banque est plein et qu'ils en ont d'autres pleins encore qui ne sont pas déclarés et qu'ils sont au sommet de leur gloire, du succès, se rendent compte qu'ils sont arrivés au summum. Mais le cœur reste vide. Tu voyez, ces footballeurs à la grandeur de leur maison, c'est grand comme un village. Et vous pensez quoi? Ils courent tout le temps, tout de suite? Quoi partout? Il a une piscine, il a une salle de cinéma, il a un sauna, il a... Et vous croyez que tous les jours il va faire tout ça, sauna, après il monte, il fait sa piscine, après il va courir, il va faire son golf. Arrive là, personne ne fait tout ça en une journée. À un moment donné, l'être humain se lasse de tous les bienfaits. Et la seule chose qui rend ce cœur apaisé, c'est Allah, bidhikrillah. Et ça c'est une chance que nous, avec notre iman billah, nous pouvons trouver cette sakina. Donc, wasta'inu bis sabri was salah. Donc, cheikh, il dit, après avoir accompli ta salah, réfléchis, est-ce que tu as le cœur plus apaisé? Sachant que tu t'es confié à Allah. Tu as affirmé à Allah que je suis ton esclave, ya kana'aboud, et que tu places ta confiance en lui. Tu lui as demandé la meilleure des choses, ihdina as-sirata al-mustaqim, la guider, la constance et la protection contre les chemins qui se sont déviés. Ensuite, tu as fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala al-azim et ainsi de suite avec conviction que sami'a Allahu liman hamidahu, qu'Allah a entendu ses louanges et ses éloges et que tu as demandé doua après la salat. Donc théoriquement, tu dois avoir le cœur apaisé comme une personne qui est, excusez-moi, l'exemple est décalé, hein, une personne qui a plein de problèmes de santé. Et qu'il y a un seul professeur, je ne dis pas un docteur, hein, un professeur de médecine, lui seul, il sait comment résoudre ton problème. Et la personne est angoissée parce que il a fait analyse de sang, c'est catastrophique. Il a fait scanner, c'est terrible. Il a fait l'IRM, c'était pire. Ça a confirmé que vraiment il y a un problème de santé énorme. Et le seul qui peut résoudre le problème, c'est ce professeur de médecine. Et tout d'un coup, tu le croises. Alors que pour avoir rendez-vous avec lui, c'est un an d'attente. Et là, tu le croises et il te dit, il lit tes résultats et il dit, ça va aller, je connais ce problème, cette pathologie, c'est moi le meilleur dans le monde pour cette pathologie. Je te dis, tu prends ce médicament, il sera terminé bientôt. Comment est-ce que la personne est rassurée? Parce qu'il s'est adressé au plus grand spécialiste, à celui qui connaît le mieux ce problème. Et il lui a donné les garanties, ne t'inquiète pas. Et là, il n'est plus inquiet. Mais quand on s'adresse à Allah, Rabbul Izzah, Allah, celui qui prédestine, qui envoie les difficultés, qui envoie la nusra, quand le mu'min s'est adressé à Allah, il doit avoir normalement le cœur apaisé, parce qu'il sait qu'il s'est confié à celui qui détient tout ça. Tout ce qu'il y a autour qui te fatigue, ben c'est lui qui décide de tout ça. Donc c'est la première question qu'on se pose. Et l'exemple du Prophète, n'importe quelle difficulté, il priait et il trouvait le réconfort à travers la salat. Deuxième verset que le cheikh nous propose, et on va s'arrêter à là, inshallah, c'est l'autre verset. Wa aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Le verset que nous citons très souvent de la surat al-Ankabut, que la salat éloigne du turpitude et du blâme. Pourquoi il faut citer ce verset sans arrêt? Il faut continuer, il faut marteler pour qu'on réalise que normalement, quand tu sors de la salat Isha, que tu aies fait la salat Isha, d'ailleurs Imam Shuraim ou Sudeis à Makkah, ou d'ailleurs Thubayti ou Al-Qasim à Medina, ou que tu fais la salat Isha ici à Saint-Clotilde ou à Saint-Denis ou à Washington, quel que soit l'endroit, quand tu ressors de la salat, normalement tu ressors avec une lumière. Normalement, tu ressors avec une force spirituelle. Et cette force-là te permet de t'éloigner encore un peu plus de tout ce qui est fahsha ou al-munkar. Donc, la deuxième question, la deuxième piste de réflexion que le cheikh nous propose pour qu'on arrive à analyser, tatafakkar ou réfléchir sur ce que tu as fait, et réfléchis quand tu as fini la salat isha, est-ce que tu arrives à mieux te contrôler? Est-ce que tu arrives à mieux accomplir les bonnes actions et à t'éloigner du haram? Ça, c'est un des objectifs. Donc, efforce-toi, après la salat, de concrétiser cet objectif. Et l'idéal, c'est d'avoir une prière de dévotion, de concentration, de contrôle sur soi, et d'essayer de garder ce contrôle en dehors de la salat. Et de cette façon, on pourra dire non à chaque chose qui est haram. Et le premier test, très souvent, c'est à la sortie de la masjid. Et quel est le péché le plus accessible, et le plus direct, le plus fréquent? Itlaqul basar ou raddul basar. Soit tu laisses tes yeux vagabonder, comme des drones. Il va partout, il regarde tout ce qui peut être regardé, et s'ils n'arrivent pas, il va essayer de regarder de loin. Ou alors, ça s'appelle itlaq al-basar, qu'Allah nous protège. C'est aucun contrôle sur le regard. Ça veut dire que ces yeux-là ne pensent jamais à Allah. Ces yeux-là, on ne les soumet jamais à Allah, sauf quand tu pries. Et que là, tu regardes au sol. Ben, tu n'as pas éduqué, tu n'as pas donné la tarbiya à tes yeux. Tu n'as pas utilisé ce ni'ma dans le ta'a de l'obéissance. Et le contraire, ça c'est un des plus grands, le plus haut degré de iman, c'est le radd al-basar. Qu'Allah nous demande, qu'il les mu'minina yaruddou min absarihim. Également pour les mu'annath, pour les dames, wa qu'il les mu'minati yaruddouna min absarihinna. Celui qui, en sortant de la salat, les fitnas c'est partout. Celui qui, en sortant de la salat, jusqu'à sa voiture, il arrive à marcher, le regard baissé. Bien sûr, les frères qui te saluent, tu fais salam, hein, pas après sa tête, tu ne fais pas salam à personne, non. On comprend ce qu'on veut dire, contrôle du regard, et quand tu conduis, on regarde ta route quand même, mais je veux dire, pas besoin de regarder toutes les personnes qui traversent, et ainsi de suite, enfin, regarde pour ne pas les renverser, mais le contrôle du regard dans toutes les situations, que tu sois en voiture, que tu prennes le bus, que tu vas à pied, ikhwan fillah, en sortant de la salat, ça c'est le ikhtibar. Réussis cet examen, jusqu'à chez toi ou jusqu'à l'endroit où tu pars après la masjid, ça va être une preuve que ta salat, elle a eu un effet. Et c'est un effort qu'on est en train de faire et qu'on montre à Allah que j'ai envie de progresser après Isha. J'ai envie de progresser après sa salat et celui qui vient un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. C'est-à-dire que montre à Allah, ne serait-ce que depuis la masjid jusqu'à ta voiture, à ta maison, tu contrôles ton regard avec espoir qu'Allah te donne la force de le faire de façon plus, avec plus d'aisance pour les autres étapes. Il ne dit jamais que c'est impossible. Il ne dit jamais qu'on habite dans une zone tropicale, il fait toujours chaud et ainsi de suite. Bil'ax, plus il y a de fitna, plus il y a d'efforts à fournir et plus grande sera la récompense qu'Allah nous accepte et qu'Allah nous permette d'être ses serviteurs intelligents, ulul albab, qui après avoir accompli les bonnes actions, ils se font du souci. Ya Allah, j'ai espoir que tu acceptes cette action. Et quand quelqu'un se fait du souci, qu'Allah accepte, il va s'appliquer. Celui qui ne pense jamais à l'acceptation, il le fait comme ça, comme l'arrivée, comme on dit. Alors que celui qui pense à l'acceptation, il va s'appliquer pour que ce soit de la meilleure des façons. Pour qu'Allah accepte et trouve cette action correcte et l'accepte. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne cette réflexion, cette possibilité de réfléchir sur le Qaboul, mais également de réfléchir sur l'apport spirituel des bonnes actions. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accepte vraiment, que ces paroles pénètrent nos cœurs, changent nos vies et améliorent notre relation avec Allah. Et la semaine dernière, on avait fait dua pour cette personne qui nous avait quittés. Et là, je vous demande de faire dua pour notre frère. Comment on peut l'appeler, tonton Ramadani? Tout le monde sait de qui on parle. Il est toujours à l'hôpital, hein? Ah, khalas, Abouk. Il va mieux? Son fils est là? Son fils n'est pas là. D'accord. Des fois, il reste. Il va mieux? Khair, Inch'Allah. Qu'Allah Rabbul Izzah lui accorde Shifa Kamil à la santé et la santé pour toutes les personnes de sa famille et qu'Allah Azza wa Jal lui accorde un haut daraja par ses difficultés et qu'Allah lui accorde donc la santé et l'apaisement. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.